Éric Bataillon.
Bonjour. La question de l'approvisionnement en carburant de l'unique centrale qui fournit de l'électricité aux 2 millions d'habitants de Gaza est régulièrement au cœur des débats dans les territoires palestiniens. Déjà rationnés en temps normal, avec 2 fois 6 heures d'électricité par jour, les Gazaouis n'en bénéficient plus que pendant 4 heures désormais. C'est le carburant qui manque, malgré l'aide apportée par le Qatar et la Turquie. En cause, les dégâts occasionnés à la centrale par les guerres à répétition avec Israël, mais aussi un différend entre les autorités palestiniennes de Gaza et celle de Ramallah. Guilhem Delteille s'est rendu à Gaza pour Orient Hebdo. À suivre, la revue de presse, regard croisé sur Israël et le monde arabe, avec Michel Paul à Jérusalem et Alexandre Bouchanti au Caire.
Orient Hebdo sur RFI.
Le sujet est qualifié de vital par l'émissaire des Nations Unies pour le processus de paix au Proche-Orient. Dans un communiqué publié cette semaine, Nikolaï Mladenov s'inquiète d'une situation créant des tensions dans la bande de Gaza, à savoir la crise de l'électricité dans ce territoire palestinien enclavé. Bonjour Guilhem Delteille.
Bonjour Eric.
Envoyé spécial permanent de RFI à Jérusalem, dimanche dernier, la compagnie palestinienne de distribution d'électricité a mis l'unique centrale électrique de la bande de Gaza à l'arrêt. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il n'y a plus de fioul pour l'alimenter. Désormais, les Gazaouis n'ont que 4 heures d'électricité toutes les 19 heures. Pourtant, si la crise est aiguë, elle n'est pas récente. Vous avez pu le constater, Guilhem, lors de vos séjours dans le territoire palestinien récemment. On peut même affirmer que la pénurie fait partie du quotidien des Gazaouis, même lorsque la centrale fonctionne.
Oui, vous le disiez, depuis la fermeture de la centrale électrique, les Gazaouis bénéficient de 4 heures d'électricité avant qu'elle ne soit coupée pendant 15 heures. Mais en temps normal, ils n'ont de l'électricité que sur un tiers de la journée, pendant 8 heures environ. Ils vivent donc en permanence avec cette pénurie. Cela pèse sur leur quotidien comme sur l'économie. Je me suis rendu dans un restaurant de Gaza. L'établissement est géré par Mounir Abdou avec son frère Kamal.
Je travaille 18 heures par jour. J'ai 70 salariés. Grâce à Dieu, les affaires vont bien. La situation économique à Gaza est très difficile. Mais pour moi, ça va. Je suis le plus grand restaurant de Gaza en termes de repas servis.
Les affaires vont bien pour Mounir Abdou, mais il n'est pas épargné par la pénurie d'électricité. Le restaurateur nous emmène derrière les cuisines et il ouvre l'une de ses chambres froides.
Celle-là est fermée. Cela fait un mois que nous n'avons pas d'électricité pour la faire fonctionner. Et là, c'est notre réfrigérateur. Il fonctionne en permanence. Et là, c'est notre congélateur. Il y a beaucoup de choses dans le réfrigérateur. J'ai été obligé de déplacer ici ce qui était dans la dernière chambre froide. Parce qu'à cause des problèmes d'électricité, je ne peux plus utiliser ce deuxième réfrigérateur.
Comme les particuliers, le restaurant de Mounir et Kamal Abdou ne dispose que de 8 heures d'électricité publique par jour. C'est évidemment loin d'être suffisant pour faire tourner leur commerce. Sur le toit du bâtiment, ils ont donc installé 3 gros générateurs.
Parfois, on a besoin de 2 d'entre eux et on alterne entre ceux qu'on met en marche parce qu'il arrive qu'il n'y ait pas d'électricité publique pendant 12 heures. Mais je ne peux pas faire fonctionner un générateur 12 heures d'affilée. Donc, j'équilibre entre les 3 générateurs. Je mets en marche chacun pendant 4 heures, parfois 6. Mais il n'est pas possible de n'en utiliser qu'un pendant 12 heures.
Aujourd'hui, ce n'est pas possible de faire tourner un commerce à Gaza sans avoir de générateur.
Non. Je ne peux rien faire sans électricité. L'électricité, c'est comme le sel pour nous. On en a besoin à chaque instant. Sans les générateurs, je ne pourrais pas faire fonctionner mes réfrigérateurs où je conserve mes légumes, la viande. J'ai besoin d'électricité toute la journée.
Mais ces générateurs ont évidemment un coût, car il faut les acheter, mais aussi payer l'essence pour les faire fonctionner. Et Mounir Abdou a fait ses comptes. Avec 8 heures d'électricité par jour, cela lui coûte 65 000 shekels par mois de faire marcher ses générateurs. Cela représente 16 500 euros. C'est 5 fois plus que ce qu'il dépenserait s'il avait de l'électricité publique toute la journée.
Alors Guilhem, sait-on à quoi est due cette pénurie persistante ?
Eh bien, les Gazaouis ont trois sources d'approvisionnement en électricité. Leur propre centrale, vieillissante et qui ne fonctionne au mieux qu'à mi-régime, faute de carburant pour mettre en marche les deux blocs en même temps. L'essentiel de l'électricité de Gaza vient en fait d'Israël. Et enfin, une petite partie provient, elle, d'Égypte par la frontière sud. Mais ces trois sources ne sont pas suffisantes, comme l'explique Mohamed Sabit, le directeur des relations publiques de JETCO, la compagnie palestinienne de distribution d'électricité.
Nous souffrons ici à Gaza d'une sévère pénurie d'électricité. Il nous en faudrait beaucoup plus pour faire face aux besoins de la population. Aujourd'hui, plus de la moitié de l'électricité nécessaire pour faire vivre la bande de Gaza n'est pas disponible. Nous avons à peu près 200 mégawatts alors que nous aurions besoin de plus de 450.
Et quand on lui demande qui est responsable de cette pénurie, la première réponse de Mohamed Sabit, c'est le blocus imposé depuis 10 ans à la bande de Gaza, un blocus qualifié de siège par les Palestiniens.
Le siège a des conséquences à tous les niveaux. Par exemple, nos techniciens ne peuvent pas voyager. Ils ne sont pas autorisés à aller à l'étranger pour suivre des formations. C'est l'un des principaux problèmes auxquels nous faisons face. Et puis également, nous n'avons pas l'autorisation de faire rentrer certains matériaux dans la bande de Gaza dont nous aurions besoin pour faire des travaux sur le réseau. C'est le cas des câbles, des transformateurs. En fait, tout composant du réseau d'électricité.
Le blocus qui est un frein aux rénovations nécessaires du circuit électrique gazaoui, c'est aussi un constat dressé par le représentant de l'ONU, Nicolas Mladenov. Dans son communiqué publié cette semaine, il a rappelé les obligations d'Israël face à cette crise de l'électricité.
Alors le blocus joue évidemment un rôle, Guilhem, mais une partie de cette crise est aussi imputable aux divisions palestiniennes.
Oui, le communiqué de Nicolas Mladenov n'épargne pas non plus les acteurs palestiniens. Le gouvernement basé à Ramallah impose des taxes sur les importations de carburant dans la bande de Gaza, des taxes élevées qui doublent le prix du carburant. L'exécutif les justifie par le fait que les factures d'électricité sont rarement réglées à Gaza. Et quand elles le sont, eh bien l'argent reste dans les caisses du Hamas à Gaza et ne lui revient pas. Mais le mouvement islamiste dénonce, lui, des prélèvements bien trop élevés et il affirme ne pas être responsable de cette crise. Taher Nounou est l'un des porte-parole du Hamas.
La solution à ce problème n'est pas ici. Elle est entre les mains de deux parties. D'abord les Israéliens, et puis les dirigeants de l'autorité palestinienne en Cisjordanie. Jusqu'à présent, ils ont refusé de régler ce problème. Nous leur avons offert plusieurs solutions, mais ils les ont toutes refusées. Maintenant, nos amis, comme les Qatariens, les Turcs, veulent nous aider à régler cette situation. Mais il y a des obstacles qui viennent d'Israël et de nos frères en Cisjordanie, le gouvernement et la présidence.
Quelles étaient les solutions que vous avez proposées?
La première et la plus importante est de permettre à la ligne 161 qui vient d'Israël de fournir plus d'électricité à Gaza. Et les Qatariens, comme les Turcs, sont prêts à payer pour cette électricité. Mais ils veulent des assurances du gouvernement et le gouvernement en Cisjordanie refuse de se porter garant auprès des Israéliens. Ils veulent voir de nouvelles manifestations car ils ont poussé les gens à manifester contre nous. Ils disent « Regardez ce problème, c'est parce que le Hamas est toujours au pouvoir à Gaza ».
De nouvelles manifestations, Guilhem, parce qu'il y en a déjà eu en janvier.
Oui, en plein cœur de l'hiver, cette crise de l'électricité a connu un premier épisode aigu. Avec la mise en marche des chauffages, les besoins en électricité ont augmenté et les réserves de carburant ont été épuisées. La centrale avait alors déjà été mise à l'arrêt. Les Gazaouis n'avaient plus que 4 heures d'électricité publique par jour et ça a entraîné un mouvement de contestation pendant quelques jours. Mohamed El Talouli vit dans le camp de réfugiés de Jabalia. Ce jeune homme est diplômé de l'université, mais comme beaucoup de Gazaouis, il est au chômage. Très actif sur les réseaux sociaux, il est l'un des instigateurs de ce mouvement.
L'appel à manifester a commencé dans le camp de Jabalia. Mais le mot d'ordre s'est vite répandu. Il y a eu des manifestations dans plusieurs villes, à Rafah, à Bourej, à Al-Mahasi. Le dernier jour, la manifestation avait lieu à Jabalia. Beaucoup pensaient que personne ne répondrait à notre appel, mais on les a surpris. Il y avait 50 000 personnes à notre manifestation. Quand on est arrivé devant la compagnie d'électricité dans le camp de Jabalia, le Hamas a commencé à attaquer les manifestants. Il disait que nous étions sur le point de prendre d'assaut le bâtiment. Mais nous n'étions pas du tout violents. Ceux qui ont eu recours à la violence, c'est le Hamas, parce qu'ils étaient surpris de la participation à cette manifestation à Jabalia.
Signe de la sensibilité de cette question de l'électricité à Gaza, ce mouvement est considéré comme la plus importante protestation organisée dans la bande depuis la prise de pouvoir du Hamas. Et Mohamed Al-Talouli, qui rejette toute appartenance partisane, ainsi que ses amis, promettent de poursuivre le mouvement malgré les menaces des autorités locales.
Le Hamas nous met sous pression et il a réussi à casser le mouvement des manifestations. Mais nous, comme l'ensemble du peuple palestinien, nous sommes toujours vivants. Nous continuerons donc à nous battre pour nos besoins, nos droits, jusqu'à ce que nous les obtenions. Nous avons une page sur Facebook qui est très populaire. Et à travers cette page, nous continuerons d'appeler les gens à manifester. Mais pas seulement contre la pénurie d'électricité, aussi contre le chômage qui est très élevé. Beaucoup de diplômés n'ont pas de travail ici à Gaza. Et le Hamas ne pourra pas arrêter tous les manifestants. Il ne pourra pas arrêter notre mouvement.
Selon Mohamed Al-Talouli, 400 personnes ont été arrêtées dans la nuit qui a suivi la grande manifestation de Jabalia. Un nombre que rejette catégoriquement le Hamas. Il évoque une cinquantaine d'arrestations et affirme que tout le monde a été libéré au bout de 24 ou 48 heures. La tension est en tout cas retombée quand les deux alliés du Hamas, le Qatar et la Turquie, ont débloqué une aide pour relancer la centrale pendant 3 mois. Mais nous sommes 3 mois plus tard et la centrale a été de nouveau mise à l'arrêt. Et de nombreux acteurs redoutent désormais que cela ne relance les protestations.
Oui, un mouvement de contestation qui interviendrait dans un contexte tendu, alors qu'a débuté lundi une grève de la faim illimitée de prisonniers palestiniens dans les prisons israéliennes et que s'approche la commémoration du 50e anniversaire de la guerre des Six Jours, victoire éclair d'Israël sur la coalition égypto-syrienne, un souvenir encore douloureux dans le monde arabe. La crise de l'électricité à Gaza, votre reportage, Guilhem Deltey, envoyé spécial permanent de RFI à Jérusalem, merci.
Merci à vous.
Ils sont spécialistes du shamstep, genre musical qui dépoussière la dabke, la danse rurale traditionnelle, à grand renfort d'instruments comme le mijouez synthétisé, et de textes qui appellent à l'abolition des frontières et dénoncent la situation politique de la Palestine. Voici 47 Soul, l'âme de 1947, un quatuor palestinien au tempérament explosif.
No form. Back to the peasant, to the fellaheen born.
Seven Soul sera en concert à Montpellier le 19 mai prochain et en région parisienne le 31.
Orient Hebdo sur RFI.
Nous allons maintenant au Caire et à Jérusalem où nous attendent Alexandre Boutchanti et Michel Paul pour lire la presse de la semaine. Bonjour Alexandre.
Bonjour.
Bonjour Michel.
Bonjour.
Alors un sujet est à la une de vos journaux, il s'agit de la fusillade meurtrière sur les Champs-Élysées à Paris jeudi soir. Alexandre, de nombreuses réactions dans la presse arabe.
Oui, et une presse qui souligne que même si le bilan de l'attaque n'est pas très lourd, l'attentat a été spectaculaire au niveau de la symbolique. Alors d'abord parce qu'il s'est déroulé sur les Champs-Élysées, la plus célèbre avenue de France, mais aussi une avenue que tous les touristes arabes se doivent de visiter et qui est devenue le surnom de nombreuses avenues chic que ce soit au Maroc ou dans tous les pays du Maghreb, jusqu'au Golfe en passant par l'Égypte. Alors symbolique aussi parce que à 3 jours du premier tour des présidentielles, un attentat qui va renforcer la candidate du Front National Marine Le Pen estime de nombreux éditorialistes. Le genre d'action qui ne peut que faire du mal aux Arabes et aux musulmans français ou séjournant en France. Un éditorialiste estime même que l'extrême droite et les extrémistes musulmans se complètent dans une parfaite symbiose.
Alors cet événement dramatique fait également la une de la presse israélienne, Michel Paul, presse qui fait d'ailleurs le lien avec la campagne pour l'élection présidentielle.
Oui, les présidentielles françaises font l'objet ces derniers jours de nombreux articles dans la presse ici et les journaux du week-end font tous le rapport entre la campagne électorale et la fusillade sur les Champs-Élysées jeudi soir. Haaretz le proclame explicitement dans sa manchette. La fusillade de Paris risque d'avoir une influence sur le scrutin. Un autre journal titre tire sur les Champs-Élysées juste avant les élections. Israël Hayom fait état d'appel à repousser la date de la consultation électorale à la suite de l'attentat. La France saigne, titre le quotidien Maariv. Pour Yediot Aharonot, pas de doute, les élections seront centrées sur la répression du terrorisme. Et tous les commentateurs le proclament, la fusillade à Paris fait le jeu de la candidate du Front National, Marine Le Pen. Un quotidien résume les promesses électorales des candidats en France, sortie de l'Union européenne et colonisation de la planète Mars. Un commentateur affirme que dimanche, la France va remodeler la démocratie. Le scrutin est une nouvelle étape dans un processus mondial dont le résultat est l'arrivée au pouvoir de mouvements extrémistes et populistes, estime un éditorialiste.
Voilà pour cet événement à Paris cette semaine. Alors dans la presse israélienne également, Michel, la grève de la faim de 1200 détenus de sécurité.
Oui, le quotidien Haaretz est le seul à se pencher de manière sérieuse sur ce mouvement des détenus de sécurité. Ils jouissent de peu de droits et il est très facile de les nier, titre le quotidien. Le journal se penche sur les conditions de détention de ces prisonniers et dans le journal on peut trouver un tableau qui compare leurs droits avec ceux des prisonniers de droit commun et permet de voir clairement la différence. Mais le véritable débat tel qu'on le trouve dans les médias tourne autour du détenu de sécurité le plus connu, Marwan Barghouti, condamné à plusieurs peines de prison à perpétuité pour meurtre d'Israéliens. On se demande si un jour il pourrait être libéré pour se présenter aux élections palestiniennes et briguer la succession de Mahmoud Abbas.
Le grand imam de la mosquée d'Al-Azhar est sous le feu roulant de la presse égyptienne, Alexandre.
Oui, une presse qui reproche au Cheikh Ahmed Al-Tayeb de ne pas vraiment combattre le terrorisme islamiste au niveau théologique. Alors certains éditorialistes de gauche vont même jusqu'à accuser la grande mosquée d'Al-Azhar, une des plus hautes autorités morales de l'islam sunnite, de faire le lit de l'extrémisme en abandonnant une tradition d'ouverture au profit du radicalisme wahhabite importé d'Arabie Saoudite. Alors le paradoxe est que ceux qui volent au secours du Cheikh d'Al-Azhar sont des éditorialistes sympathisants des frères musulmans, les mêmes qui voulaient le limogeage du Cheikh Ahmed Al-Tayeb quand la confrérie était au pouvoir et qu'elle trouvait le grand imam anti-islamiste.
Et puis un nouveau coup vient d'être donné aux femmes d'Arabie Saoudite, c'est selon le journal Al-Ayat.
Oui, dorénavant, la femme aura besoin de l'accord préalable de son tuteur, père, frère, mari, oncle, etc., avant de pouvoir travailler. Une obligation qui avait été levée depuis quelques années. Mais l'article qui précisait cette exemption vient de disparaître du nouveau Code du travail saoudien, précise Al-Haya. Rappelons que les femmes saoudiennes ont déjà besoin du permis de leur tuteur pour pouvoir voyager à l'étranger.
Enfin, Michel, un sujet qui intéresse les Israéliens, une décision de la Cour suprême qui maintient l'ouverture des magasins le Shabbat à Tel Aviv.
C'est un nouvel épisode de la guerre du Shabbat et cette fois la Cour suprême israélienne donne son feu vert pour permettre au commerce à Tel Aviv d'ouvrir pendant le jour de repos hebdomadaire de manière un peu plus allégée. Une décision qui provoque la colère des partis religieux, une colère que l'on retrouve dans les quotidiens ultra-orthodoxes. La Cour suprême nous permet de vivre, estime au contraire l'éditorialiste d'un quotidien laïque. Éric, on peut dire que le dernier mot n'a pas encore été dit sur cette nouvelle guerre du Shabbat.
Michel, quelle est votre photo cette semaine ?
Bien, ce sont les photos de rescapés de la Shoah, publiées dans tous les journaux à la veille de la journée de l'Holocauste en Israël. Un rapport publié il y a quelques jours en Israël attire l'attention sur la précarité de leur situation économique.
Merci Michel, merci Alexandre. Orient Hebdo, une réalisation de François Porcheron. Et pour nous réécouter, rendez-vous sur le site de la radio www.rfi.fr ainsi que sur notre page Facebook. La semaine prochaine, nous évoquerons le Yémen avec l'universitaire et romancier yéménite Habib Abdulrahab Sarori. En attendant, passez une bonne semaine à l'écoute de RFI. Tout de suite, un nouveau journal.